Le concours vitrine de toutes les musiques vous présente en préliminaire ses 21 oiseaux rares. Le concours vitrine de toutes les musiques vous présente en préliminaire ses 21 oiseaux rares. Du 19 février au 3 avril, c'est au Francouverte que ça se passe. Faites le plein de nouveautés musicales au sympathique Lion d'Or et découvrez 3 artistes et formations par soirée ainsi qu'un invité surprise. Soyez au rendez-vous afin de contribuer au choix des 9 demi-finalistes. Pour tout savoir, visitez francouverte.com. Les Francouvertes, une présentation de Sirius XM.
Les Cornes, c'est ton rendez-vous Metal Underground sur choc.ca. Branche-toi.
Tous les mardis à 20h au Théâtre Sainte-Catherine, c'est la soirée Art Machine. Venez découvrir le show le plus éclectique en ville. Humoristes, musiciens, clowns, artistes burlesques et autres what the fuck se partagent la scène du Théâtre Sainte-Catherine. Venez vivre avant de mourir. Le tout est accompagné du house band The Firing Squad. 10$ prix régulier, 7$ prix étudiant. Le Théâtre Sainte-Catherine est situé au 264 Sainte-Catherine-S, à 2 pas du métro Berri-UQAM. Les portes ouvrent à 19h30, show 20h.
Art Machine.
Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de choc.ca.
La carte Campus Quartier Latin, c'est des rabais instantanés dans 20 commerces participants. Viens chercher ta carte gratuite devant les locaux de choc.ca et économise partout sur ton campus étudiant, le Quartier Latin. Pour plus d'informations, rends-toi sur quartierlatin.ca dans la section Privilèges étudiants.
La Société de développement des périodiques culturels québécois vous présente le Printemps des revues. Que vous soyez passionné de cinéma, d'art visuel, de musique, de théâtre, que vous aimiez vous plonger dans les nouvelles et les poèmes, ou que vous souhaitiez approfondir les enjeux de société, vous trouverez parmi les 45 revues de la SEDEP. Du 6 au 25 mars, les revues culturelles québécoises vous donnent rendez-vous. Pour plus de détails, rendez-vous sur sedep.qc.ca.
What's up? Joe RCA, babe, they dead or bees. If you're at the court, the shut.
What it? You say you got drugs, homie, tell me what it.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette édition 166 de Pop en Stock. Mon nom est Jean-Michel Bertillon, mais ça me fait terriblement plaisir de vous parler aujourd'hui et de parler à Megan Bédard. Bonjour Megan.
Allô Jean-Michel.
Comment ça va?
Ça va bien et toi?
Oui.
Ok.
Ouais, je suis dans une espèce de... C'est fou, je suis allé faire une présentation dans une école secondaire aujourd'hui.
Oh!
Puis je sais que le site web de Pop en Stock est actuellement en train d'ouvrir une rubrique pour le cégep.
Éventuellement, ça va... c'est beaucoup de travail. On travaille là-dessus en ce moment, mais ça devrait arriver soit d'ici la fin de la session ou au début de la session prochaine.
Et dès que ça va exister, on va ouvrir la rubrique cégep.
Oui.
Ouais, secondaire.
Ah oui.
Parce qu'il y a des trucs absolument fous qui se font...
Mais il faut encourager les jeunes de très jeune âge là, à commencer à s'intéresser à ça.
Ben c'est au-delà de ça, parce que c'est pas l'intérêt qui manque, c'est...
Non, mais je veux dire à la recherche et non pas
exactement.
Juste à écouter des films.
C'est qu'ils sont ultra familiers avec les objets de culture pop blanc, puis même qu'ils, dans les communautés, ils développent le langage nécessaire, ils se partagent ces notions-là qui, pour nous, sont théoriques, mais qui, pour eux autres, sont très, très, très pratiques. Puis aujourd'hui, j'ai vraiment là, comme 20 étudiants ultra allumés, plus allumés que... la majorité des personnes qu'on retrouve à l'université, malheureusement. Puis c'était complètement fou. Ça fait qu'on va probablement aller dans cette direction-là. Puis je suis super content.
Yes.
Mais je suis super content pour plein de raisons. Notamment le fait que on va parler, évidemment, par la bande de Black Panther aujourd'hui, mais on parle... C'est enfin l'émission où on va faire l'afrofuturisme comme il faut, à mon avis. Puis je pourrais pas être plus content d'être... Ben, Rachel, on... de t'avoir avec nous.
Allô?
Bonjour à Rachel Hippolyte, que vous reconnaissez, évidemment, qui, toi aussi, t'étais une des grandes instigatrices que faut qu'on la fasse, cette émission-là.
Éventuellement, oui, c'était dès que j'ai vu la bande-annonce, j'ai fait, ben, à un moment donné, il va falloir qu'on le fasse, là.
Oui, puis c'est drôle parce que j'étais à moitié dans un... Ben, c'est Megan qui s'est occupée beaucoup de la programmation, mais est-ce qu'on l'a fait en février? Est-ce qu'on l'a fait, tu sais?
Effectivement, c'est ça, parce qu'au départ, elle était censée être faite en février. Après ça, elle a été décalée pour des raisons et d'autres. Puis, en fait, je pense que malgré tout, même si elle est faite après le mois de l'histoire des Noirs, c'est d'autant plus pertinent parce que c'est maintenant qu'on voit les retombées de la chose un mois plus tard avec les chiffres au box-office, avec les nombreuses analyses qu'il y a eu. Je crois que c'est pas... la pertinence est pas moins là parce qu'on la fait pas au moment où c'est chaud dans l'actualité, mettons.
Ben oui, suite à la sortie, mais aussi suite à, comme dire, tous ces sujets-là, on les isole en...
En février.
C'est ça, exactement.
Exact.
Dire, ben, on va étendre ça parce que il y a eu énormément de belles activités durant le mois de février.
Tout à fait.
Beaucoup qui ont été gérées par un endroit que je veux mentionner immédiatement. On va parler de beaucoup d'objets culturels aujourd'hui. Si vous êtes curieux d'aller les chercher ou d'aller vous les acheter, je vous encouragerais pour cette thématique-ci, d'aller les chercher à la librairie Racine.
Oui, à Montréal-Nord, qui est ouverte les...
Vendredi,
samedi, dimanche, lundi, mais je suis pas sûre, lundi. Mais vendredi, samedi, dimanche, absolument. Je te coupe tellement, je m'excuse.
Pas du tout, pas du tout. Non, non, c'est ça, je vais aller chercher des informations complémentaires à la suite, mais je veux... Tout de suite, mettre ce mot-là.
Gabriella Quinté, la propriétaire, fait une excellente job de curation.
J'aurais vraiment voulu qu'elle vienne. Puis je l'ai invité il y a comme un mois et demi, puis ça malheureusement pas fonctionné, parce que bon, elle tient ce projet-là.
Absolument, à bout de bras. Là. Mais c'est ça, donc Gabriella Quinté fait un excellent job de curation par rapport à justement les livres qu'elle reçoit, tant pour ce genre de sujet que aussi pour des livres jeunesse qui parlent de la condition noire. Puis je trouve ça vraiment chouette. C'est peut-être mon côté prof au primaire qui fait « Oh mon Dieu, c'est cool des livres jeunesse, puis que ce soit bien fait, mais c'est pas grave. »
Non, ça vaut la peine d'être mentionné.
Oui.
Et on a aussi, ça me fait vraiment, c'est comme une intégration dans la famille, je sais que ça fait longtemps, ça fait depuis la sortie de Force Awakens, je pense que tu cognes à la porte de Pop en Stock, Hansfried.
C'est vrai, c'est vrai.
Ouais, donc c'est Hansfried Chichinenbo.
Oui.
Qui est le cofondateur de BIAS.
Fondation BIAS, oui. Alors en fait, c'est un organisme que j'ai créé avec Déborah Chérenfant, il faut que je la mentionne, et qui a comme ambition en fait de mettre de l'avant des activités, des artistes issus de la diversité et particulièrement des communautés noires.
Wow.
Et on aime beaucoup ce que fait Racine. On fait nous-mêmes quelquefois des petites librairies éphémères. Donc nous, on n'a pas de local, mais ça nous arrive de faire de la curation de livres aussi.
Ok, wow. Et bon, t'es extrêmement enthousiasmé depuis.
Oui, en fait, dans le fond, c'est que vraiment quand Black Panther est sorti, j'avais entendu une chronique que tu avais faite dans une autre radio, n'est-ce pas?
Histoire, ouais.
Et et en fait, après avoir vu le film, je t'ai dit waouh, en tout cas, si un jour vous en parlez à Pop en Stock que j'écoute religieusement, je veux absolument pouvoir faire partie de la discussion. Donc, je suis content d'être là.
Et on est très content que tu sois là, parce que c'est surtout cette réaction-là que j'aime entretenir. Je crois qu'il y a... Puis Black Panther fait très, très bien son... Ben, c'est pas son travail, mais le phénomène est extraordinaire. Ce n'est pas éphémère.
Non.
Exact.
Ouais.
J'aime beaucoup que ça n'a pas duré une fin de semaine. C'est encore... Puis au-delà des chiffres de box-office et ainsi de suite, il continue à y avoir...
Il y a une discussion.
Mais oui, c'est exactement ce que j'allais dire, d'où mon affaire. T'sais, j'allais dire au-delà du box-office, c'est dans le sens où les analyses continuent, ce que ça signifie, tu sais, c'est... Il n'y a pas juste, effectivement, pas juste un côté commercial, c'est ce qu'on pourrait craindre, c'est-à-dire est-ce que, dans le fond, un mouvement social est récupéré par le capitalisme et tout? Puis, ça le prouve que non, dans le sens où, oui, évidemment, les chiffres sont imposants en soi, mais juste le fait que les chiffres soient imposants en soi, c'est une preuve aussi que, comment dire, les Noirs ont un pouvoir économique aux États-Unis. Et ce pouvoir économique-là, il est retourné en quelque part à la communauté, tu sais, le Black-owned enterprise.
Oh, wow!
C'est un peu ça, tu sais.
OK, je connaissais pas cette description.
Ouais, dans le fond de ce mouvement-là, de, tu sais, d'acheter noir, si tu veux, comme acheter local.
Ouais, comme acheter local.
C'est le même principe, là.
OK.
C'est de... Ouais, bref, c'était ça que je voulais dire.
mais c'est ça, c'est qu'il y a rien d'autre qui est arrivé... pour distraire. T'sais, ils ont pas, c'est pas encore rendu. Il y a Wrinkle in Time qui est sorti, qui est un peu, non pas en piggybacking, mais en continuité de ce mouvement-là. Mais il y a aucune franchise, il y a aucun film qui a fait, c'est enfin, après deux semaines, ce film-là a réussi pas à ramener. Apparateur continue. Mais en même temps, en faisant un peu de recherche sur l'histoire de qu'est-ce qu'on appelle l'afrofuturisme, la thèse principale qui nous provient de l'essai Black to the Future de Mark Derry, explique de façon presque prophétique à ce qui est en train de se passer. Il dit, je cite, « Can a community whose past has been deliberately rubbed out and whose energies have subsequently been consumed by the search for legible traces of its history imagine possible futures? Mm-hmm. » Puis là, c'est comme, on est rendu, Black Panther devient cette espèce de phénomène stellaire que tout le monde observe, mais maintenant, il y a comme un après qui n'est pas dépendant de Black Panther. Il y a plein d'initiatives. Bon, là, on le sait, Ta-Nehisi Coates va travailler sur Captain America. On sait qu'il va y avoir d'autres séries sur le Doré Milage qui va être publiées par Marvel.
Ouais.
Mais là, c'est le reste de l'afrofuturisme qui se manifeste. Puis c'est là où je trouve que la phrase de Derry est vraiment importante, parce que l'attention n'est pas sur l'objet Panther. L'attention est sur l'imaginaire afrofuturiste.
Absolument.
Puis c'est ça qui est en train de mousser, tu sais. Il y a vraiment tout ce qui est de cet imaginaire-là, pas tout ce qui est de cette propriété intellectuelle-là, est en train de reprendre, ou, ben, en fait, pas de reprendre, parce que ça n'a jamais été une autorité culturelle, mais là, c'est comme, tout est bonifié.
Oui, mais en fait, c'est de, pas la populariser, mais de la mettre en lumière.
Ça, c'est juste d'y donner une place.
Exact.
Finalement, c'est essentiellement juste ça, là. Oh, c'est pas, ça n'a pas de besoin de dire, ça, et à mon avis, j'ai pas vu de dialogue de comparatif. C'est pas un truc de comme, oui, mais ça atteindra jamais ça, ou ça, ben oui, mais de la médisance. Mais en fait, c'est comme, ça devient un monument de plus. Ouais. C'est qu'on dirait.
Oui, parce que je pense que comme justement c'est une alternative, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu jusque-là. Parce que souvent les gens disent, si on prend Black Panther, les gens parlent de Blade, qui est le premier super-héros noir qui a fait un blockbuster, mais là c'était pas dans le même contexte. Pour moi, il y a deux éléments. C'est premièrement que le cast soit entièrement noir, mais aussi le fait que ça se passe en Afrique. Je pense que le fait que ça se passe en Afrique, c'est quelque chose aussi pour ce film-là qui est assez important. Et quand on parle d'afrofuturisme, en général, je pense que lui, Mark Derry, pensait avant tout aux Afro-Américains. Mais je trouve que là, en 2018, j'ai plus l'impression qu'on s'intéresse à ce qui se passe en Afrique. Et je trouve ça intéressant. Il y a cette dichotomie entre, d'un côté, les Afro-Américains ou les Afro-Canadiens, et de l'autre côté, les Africains. Faut pas oublier les Caribéens, bien évidemment. Mais là, je trouve que ça permet de mettre en lumière des choses qui se passent en Afrique avec des auteurs qui font des choses par rapport au continent, des histoires sur le continent. Et là, en fait, comme tu dis, il n'y a pas besoin de comparer parce qu'il n'y a pas de référent. Donc, comme il n'y a pas de référent, on n'a pas besoin de comparer. On peut juste apprécier ou ne pas apprécier. Je pense que plus il y en aura, plus on finira par comparer, plus on verra aussi des choses qu'on aime moins, et c'est totalement normal. Mais pour l'instant, comme tu dis, ça n'enlève rien à personne, ça rajoute juste une couleur à l'histoire.
Mais ça fait juste rajouter, parce que dans un certain sens, c'est plus des dichotomies, c'est comme une espèce de retour aux racines, en fait, qui est extrêmement bien exploité dans le film aussi.
Oui.
Donc, d'où l'absence de comparaison, puis qu'il y a effectivement que l'appréciation qui vient après, tu sais.
C'est vraiment beau, je suis sans mots, j'aime tellement ça vous entendre parler. Mais c'est un sujet quand même important dans Black Panther, justement, cette dichotomie-là entre l'Amérique, les Afro-Américains et les gens qui habitent en Afrique, parce que c'est comme au centre de le vilain, justement, c'est un enfant dont les parents viennent d'Afrique, mais qui s'identifie à l'histoire afro-américaine.
Absolument.
De l'esclavage. Donc, c'est super intéressant comment c'est développé, justement, dans l'affrontement entre les deux.
Ben, je pense que si on parle justement de l'œuvre, là, on pourrait parler du fait que Killmonger, c'est quand même un très, très bon méchant.
Oh oui.
Et okay, oui.
Ça faisait longtemps que Marvel n'avait pas eu
un bon méchant.
Ouais, c'est-à-dire, il est tellement bon méchant qu'il y a plein de gens qui se demandent si c'est un méchant.
Oui, c'est ça. Il y a une grande ambiguïté.
Oui, oui.
Ben, c'est parce que, tu sais, il y a des grands... Comment dire? C'est comme s'il y avait des grandeurs d'âme dans sa méchanceté, même si, finalement, il y a un côté extrêmement narcissique, c'est comme, ben oui, vous vous occupez pas assez des autres, vous êtes uniquement tourné sur vous-même, blablabla, mais qu'en même temps, c'est lui-même dit ce discours-là, mais ne veut que devenir roi, tu sais, ne veut...
Oui, mais en même temps, c'est pas... Je me pose la question sur ce devenir roi-là.
Ouais.
Est-ce qu'il est... C'est-tu du détrônage par ambition, du détrônage par j'ai vécu tout ça pour être capable de faire mieux?
C'est... Ah, c'est by all means. Moi, je pense que c'est vraiment trouver le moyen pour arriver à ses fins. Le moyen, c'est d'être roi pour pouvoir utiliser le vibranium et le Wakanda même dans son ensemble,
exact,
fondamentalement, pour atteindre l'objectif que Killmonger s'est donné, à savoir libérer le peuple.
Et c'est là où le vilain...
Mais c'est vraiment, oui, c'est ça, c'est exactement ça, c'est que la ligne... Mais, la ligne
c'est une
de
ligne
ça,
éthique.
Exact, c'est, la ligne de ça est extrêmement mince, puis tu sais, c'est aussi quelque chose qu'on peut voir, tu sais, d'un point de vue, d'un point de vue politique aussi, avec le parti Black Panther, avec ce mouvement-là qui, lui aussi, en son sein, contenait, tu sais, oui, une cause noble, mais à quel prix, tu sais?
Des paradoxes, exactement.
Absolument.
Je ne sais pas à quel point la lecture, elle est fonctionnelle, mais j'ai vu passer, bon, et n'étant pas assez familier avec l'histoire pour être capable de correctement dire oui, ça fonctionne de cette manière-là, il y a des lectures qui se font entre l'opposition de T'Challa et Killmonger, comme celle qui existait entre Martin Luther King et Malcolm X.
C'est, je pense qu'il y a du vrai, mais je pense c'est qu'il y a, il y a aussi le fait que à chaque fois qu'on parle de deux figures pour les Afro-Américains,
absolument,
on parle toujours de Malcolm X et de Martin Luther King. Même là, justement, on pourrait parler de Martin Luther King qui est professeur X pour X-Men et Malcolm
Magneto.
X et Magneto. Pour, donc c'est toujours les mêmes figures qu'on reprend ad vitam aeternam. J'ai pas lu assez sur les deux personnages pour savoir. Je pense que on a vraiment voulu d'abord vilipender Malcolm X et glorifier Martin Luther King. Un, parce que avait l'air beaucoup plus docile que l'autre. Mais finalement, il y a beaucoup de gens qui disent que si on lit vraiment entre les lignes, à la fin, ils avaient à peu près le même message.
Oh, ouais.
Ouais. Le fait qu'on dise tout le temps Martin Luther King, I have a dream, mais il paraît que dans ce discours-là, la suite de I have a dream, il parle un peu de prendre les armes, pas prendre les armes, on va tuer tout le monde, mais vraiment de, il y a un côté militant qu'on retrouvait beaucoup plus chez Malcolm X quand les gens pensent à Malcolm X. Et Malcolm X, lui, était revenu un peu plus vers Martin Luther King, où il n'y avait pas cette ambition de la nation d'islam de vraiment créer une société séparée et puis on vilipende les WASP. Donc moi, je pense vraiment que si on prend ces deux personnages-là, à la fin de leur vie, elles étaient beaucoup plus proches qu'on ne le croit.
C'est exactement ce que j'allais souligner, c'est que dans le fin fond, tu sais, on a fait une image très lisse de Luther King, mais tu sais, dans plusieurs de ses discours, dans les discours qu'il a fait à Selma, entre autres, puis j'en ai lu quelques-uns, là, c'est un... Mais c'est ça, c'est... Il y a un côté révolutionnaire, il y a un côté de... Il faut absolument qu'on fasse une révolution, il faut qu'on prenne en... qu'on prenne un pouvoir, tu sais, c'est pas juste le ah oui, on va faire des trucs de non-violence comme ça, on dérangera pas trop. Là, au contraire, il voulait déranger, tu sais, sa manière de déranger était autre que celle du parti que Malcolm X disait, tu sais, de plus par les armes, vers, tu sais, c'était de manière autre, mais il y avait tout autant cette volonté là de révolution, de pouvoir, tu sais, d'empowerment.
Ouais, mais quand en pensant à ça, ben il y a une espèce d'entente qui se fait à la fin de la vie de Killmonger. Ouais. La fin de leur confrontation, une fois qu'ils sortent du tunnel, les deux se reconnaissent comme
tout à fait.
Deux parties de la même, deux faces de la même pièce.
Ouais.
Puis c'est drôle parce que j'ai été momentanément, je veux dire, pendant un mois, tout ce que j'étais capable d'écouter, c'est la trame sonore de Kendrick Lamar.
Qui est incohérente.
Qui est extraordinaire, mais qui est construite, parce que c'est bel et bien que Kendrick a fait les chansons, mais c'est un artiste, malheureusement suédois, que je me rappelle pas.
Oui, j'ai oublié son nom. Son nom m'échappe.
Son nom m'échappe, et en plus, je ne crois pas être capable de correctement la prononcer, mais...
On est tous sur nos devis.
En fait, son nom,
c'est
Ludwig,
Ludwig Göransson.
Göransson, oui.
Voilà, exact.
Qui a fait la trame sonore de manière à ce que La trame sonore est l'extension du dialogue entre ces deux personnages.
Oui.
C'est très intéressant ce que tu dis parce que, bien évidemment, après le film, j'ai lu énormément de choses. Et par rapport à ça, en fait, c'est comme si on dit que la soundtrack de Kendrick, c'est Killmonger. Et que score de Ludwig Göransson, c'est T'Challa.
Oh, ouais.
Parce que puisque la trame sonore de Ludwig, lui, il a fait en allant dans plusieurs pays africains. Donc, il a vraiment pris des sonorités du Sénégal, il a pris des sonorités de l'Afrique du Sud, que ça soit des choses modernes ou traditionnelles. Alors que Kendrick Lamar, lui, il est resté dans son hip-hop. Bon, c'est un artiste de hip-hop, c'est normal, c'est très très bon. Et donc, quand tu réfléchis bien, c'est ce qui marche. C'est africain-américain, alors que de l'autre côté, c'est l'Afrique. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Il y a aussi Chadwick Boseman, l'acteur qui joue T'Challa, qui dit que, dans le fond, c'est son personnage qui fait tout le travail, et c'est lui qui, finalement, au début, est le méchant, parce que c'est lui qui a le pouvoir et qui, finalement, laisse de côté les autres personnes. Et il a une belle image, il dit « C'est moi qui nais avec la cuillère de vibranium dans la bouche ».
Donc, ouais,
alors que l'autre, lui, a pas grand chose. Et c'est vrai que la musique aussi utilise ça. Et il y a une chose par rapport à la musique, ça c'est côté de Ludwig Göransson, où quand les Dora Milaje se mettent en combat, on entend toujours le même son. Et la première fois que j'ai vu le film, j'avais pas fait attention, mais la deuxième fois j'ai fait attention. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'elles arrivent en scène, on se dit ok, là maintenant il va se passer une scène d'action, on entend cette chose-là. Donc il y a eu beaucoup de travail qui a été fait justement pour encore mettre de l'avant des cultures africaines par rapport à
ça. Oui, c'est ça, parce que c'est toujours présent. On pourra probablement, on pourra pas le faire à l'émission, mais si vous voulez poursuivre votre réflexion à la maison, il y a des articles qui recensent tous les éléments de mode, tous les objets, en disant, ben ça, c'est un headdress, quelque chose qu'on porte sur la tête qui vient de ce pays-là,
telle ou telle ethnie. Ou
exactement, c'est traditionnellement pour ça. Ouais, parce qu'il y a comme, en partant de la trame sonore, il y a un sampling aussi par rapport aux objets culturels. Oui. Parce que le langage... Non, la langue est uniforme. La langue est pour
composer. Mais les accents sont
différents.
Différents.
Il y en a qui ont des accents nigériens, il y en a qui ont des accents d'Afrique du Sud, il y en a qui ont des accents
d'Afrique de l'Ouest.
D'Afrique de l'Ouest aussi, oui. Parce que c'est qu'au début, comme T'Challa est apparu dans Civil War, son père, lui, est un acteur sud-africain. Là, je parle de l'acteur, pas du personnage.
Mais c'est pas son vrai père ou un truc comme ça?
Non.
Non?
Non, 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 non. Donc,
okay.
Donc en fait, l'acteur, lui, comme il était sud-africain, ils ont fait deux choix. Ils ont dit, un, ça va être cet accent-là que toi, tu vas essayer d'imiter. Et deux, plutôt que de se parler entre nous en anglais, normalement, si on est un pays qui a toujours été indépendant, on va devoir se parler dans une langue africaine. Donc, c'est pour ça que le Wakanda, c'est le Xhosa, la langue où il y a des clics dedans, en fait. Parce que justement, l'acteur sud-africain, lui, c'est la langue qu'il parle. Mais après, quand ils ont choisi tout le cast, comme il y a des Afro-Américains, comme il y a des Africains aussi américains comme Danai Gurirai, là, il y a des gens qui, j'imagine, ont voulu plutôt copier l'accent de chez eux, donc l'accent kényan, l'accent zimbabwéen, l'accent ougandais et des choses comme ça.
Non, je me trompe. Je l'ai regardé, mais j'avais l'impression qu'il y avait un truc.
Non, non, c'est pas. Je suis sûr que c'est pas son père.
Non, non, t'as absolument raison. C'est juste que
non, j'avais lu un dialogue justement au sujet de ça, mais tout ce sampling d'objets et d'accents, puis il y avait un des deux parties du dialogue qui disait que ça l'avait vraiment beaucoup agacé quand il avait écouté Black Panther, puis l'autre partie du dialogue, c'est super intéressant, je me souviens plus exactement comment ça s'était terminé, mais de voir comment toutes les... En fait, il y a des échos qui se construisent entre la musique, qui est aussi du sampling, le sampling visuel avec les objets, et puis le sampling sonore aussi avec les accents. Ça fait vraiment de Black Panther un objet comme très contemporain.
Ouais.
Là.
Oui.
En fait, moi, je pense qu'il y a plusieurs aspects. Moi, je suis africain. J'ai vécu longtemps dans la Caraïbe. Et il y a des gens qui vont te dire « Ouais, mais là, c'est la vision afro-américaine de l'Afrique. »
Tout à fait.
Et qu'ils font encore l'Afrique, plutôt que ce soit un continent, c'est un pays. Et à la limite, c'est légitime. Mais en même temps, il y a plusieurs choses. Un, on est dans un pays fictif, le Wakanda n'existe pas. Et deux, en plus, moi, ce que j'aime, c'est que c'est quand c'est fictif, tant que c'est cohérent, ça va. Et c'est cohérent parce que ce sont des tribus différentes. Donc M'Baku n'est pas le même accent que T'Challa, qui n'a pas le même accent que Nakia. Comme ils ne viennent pas du même endroit exact dans le Wakanda, c'est pas choquant. Et aussi, ben, moi je pense que quand on fait un film comme ça, quand on a l'occasion de mettre avec autant de budget un film comme ça, de se dire plutôt que de le faire sur un seul pays, je vais le faire avec plusieurs éléments de plusieurs pays. Je trouve que déjà ça fait très hip-hop et je pense que c'est la culture quand même de Ryan Coogler. Il est de la culture hip-hop, même s'il devient un réalisateur après. Donc je trouve que c'est le sampling, c'est on prend un peu d'échantillonnage d'à droite, d'à gauche et on finit par faire quelque chose qui est différent mais qui reprend les motifs que l'on connaît déjà.
Oui. Je ne mets que ce syncrétisme-là devienne une œuvre en elle-même, en fait.
Oui, parce que le syncrétisme est quand même une partie très importante de... Ben, c'est une dynamique assez récurrente dans l'Afrique et les Caraïbes. Il y a quand même beaucoup de récupération, réutilisation. Puis on utilise le terme syncrétisme pour être capable de comme, institutionnaliser cette dynamique-là.
Oui, oui.
Je m'étais pas trompé. En fait, le jeune et le vieux... là, je vais être certain. T'Chaka est joué par un père et un fils.
Ah, OK, mais ça fait du sens.
C'est ça, exactement. Donc, les scènes d'appartement avec...
Quand ils sont en Amérique.
Exactement. La scène d'introduction.
Oui.
T'Chaka est joué par le fils de T'Chaka dans Captain America Civil War Institute. Oui, c'est ça, j'étais certain qu'il y avait quelque chose sur moi. Mais je savais aussi inévitablement qu'on finirait par tourner pas mal autour de Black Panther, mais je veux vraiment d'abord, pas d'abord avant tout, parce qu'on est déjà assez avancé dans l'émission, qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est le genre de question que j'aime beaucoup poser à tout le monde, parce que j'ai eu l'occasion, comme vous l'avez mentionné tantôt, de parler de qu'est-ce que ça représentait pour moi. C'est un autre univers, c'est quelque chose de nouveau, c'est un imaginaire que... Je peux quasiment jalouser tellement qu'il est beau. Je le regarde, pas quasiment, je le jalouse, je trouve que c'est extraordinaire. Mais comment est-ce que vous êtes senti? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais qu'on fait de la théorie dans Papanstock, mais je trouve que c'est vraiment important que vous parliez de votre expérience personnelle.
Oh mon Dieu!
Megan aussi.
Oui. Oh my God! OK, j'ai vu le film deux fois, la deuxième fois étant hier, puis et je pense que j'ai encore plus... triper de le revoir que de l'avoir vu. Ah oui! Parce que là, ça me permettait de revoir tous les détails puis d'encore plus analyser de « Ah ouais! All right! » Mais je pense que, honnêtement, tu disais « J'aimerais ça savoir comment vous l'avez reçu puis j'ai pas grand-chose à dire d'autre que des onomatopées, fait que je me sens un peu push, mais... honnêtement, j'ai capoté. Puis une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment capoté, c'est que c'est tellement rare de voir un film afro-centré dans le Black Center.
Oui, oui, oui.
C'est tellement rare de voir ça. C'est tellement beau de voir ça. J'en ai eu vraiment des émotions. Puis comme je te dis, je pense que je les ai eues encore plus hier, quand je l'ai revu.
Parce que sur le coup... Tu savais que le film était réussi?
Je savais que c'était bon. Fait que là, je pouvais juste me permettre de juste emmagasiner l'émotion que je ressentais pour vrai, tu sais.
Ouais.
Fait que c'est ça. J'étais comme, comment t'as réagi? Puis tout ce que j'ai dans la tête, c'est vraiment plein de m'atopées. Fait que c'est juste drôle, mais... J'ai essayé de faire des phrases cohérentes pour dire ça. T'as essayé.
Ouais. Ben, moi, franchement, avant que le film sorte, quand j'ai vu la bande-annonce, j'avoue que je me suis dit, il faut absolument que je voie le film. C'était pas nécessairement en tant que noir, en tant qu'africain, mais c'était juste quelqu'un, un cinéphile, qui a vraiment envie de voir un film parce qu'il a l'air excitant, comme d'autres fois, je vois un Jurassic Park et je me dis, celui-là, je vais aller le voir. Quand je suis finalement allé le voir, là, j'étais vraiment, j'étais subjugué. Subjugué parce que c'est tout ce qui a été fait, c'est-à-dire le fait que ce soit un réalisateur noir qui soit jeune en plus,
absolument.
Le fait que celle qui a fait les costumes soit une femme noire, c'est-à-dire que tout a été fait pour que on dise ok, là on va faire cette œuvre culturelle, mais on va bien la faire et ça va vous impressionner. Et en effet, je trouve que c'est impressionnant. Après, il y a d'autres films qui sont impressionnants aussi, ouais. Mais c'est sûr que ça résonne un peu plus avec moi parce que, ils ont ma couleur et que ça n'arrive pas souvent qu'on voit des gens de ma couleur dans un film de cette envergure-là. Donc, moi, je pense que c'est un jalon et je trouve que si les gens parlent d'afrofuturisme maintenant, c'est grâce à ce film-là. Donc, il y a vraiment un côté de d'œuvres cinématographiques, mais aussi d'objets culturels par rapport à toute la répercussion que ça a et que ça va avoir encore une fois.
Ben, c'est que ça amène quand même, en fait, c'est que ça amène tout un pan d'analyse de la culture pop. En fait, d'autant, ce n'est pas que l'étude d'un objet culturel comme étant cinématographique, c'est que ça devient un nouvel élément de culture populaire et de culture populaire qui n'est pas uniquement de culture noire, c'est de culture populaire at large.
Oui.
Et puis c'est ça qui rend la chose d'autant plus intéressante, en fait.
Je suis totalement d'accord avec toi, parce qu'en tant que chercheur, moi, c'était comme, regarde tous les nouveaux codes.
Ouais. Exact.
T'sais, c'est comme, j'ai la même pulsion vers le cinéma indien. Ouais. Je suis juste comme, oh my God, là, il va falloir que je comprenne tout ça en plus. Ouais. T'sais, je réfléchissais à le... Il y a énormément qui s'est fait dans la trope du héros soldat. Tout le monde... Ouais. Le Chosen One. L'idée qu'il y a une personne qui est capable de régler le problème. Mm-hmm. Je crois que c'est une trope qui est massivement... elle a été comme...
Ah, ça a été surutilisé.
Exactement, que là, il n'y a pratiquement plus de surprises parce que c'est tous des gens... Puis là, on s'est retourné à essayer d'analyser c'est qui les gens qui sont en support. Mm-hmm. Fait que là, tu pars avec, par exemple, le personnage de Carrie Ann Moss dans The Matrix, qui est la femme qui donne l'inspiration au héros, puis qu'après ça, elle devient un outil qui est désuet une fois que l'héros a son inspiration. T'sais, là, on commence à regarder les doubles et les tiers personnages. Là, avec Panther, c'est comme... C'est qui le dernier personnage qui, avant de prendre une décision, a concerté des gens autour de lui. Mm-hmm. T'sais, je ne peux pas trouver quelque chose en culture populaire actuellement, autre que Black Panther, que c'est quelqu'un qui a fait « Je vais pas prendre la décision tout de suite. Il y a d'autres gens que je dois consulter avant pour être certain. » Ça se fait pas.
Ouais.
Ça, je suis comme... Aïe, aïe, on a du chemin à faire avec cette idée-là, t'sais, de et merde, t'sais, de la prise de décision par la communauté. Juste c'est comme autre chose. Je sais pas, moi, ça me...
Ouais. Oui. Ben, tu sais, il y a ça, tu sais, puis il y a ça aussi dans d'autres œuvres littéraires à futuristes, genre comme The Parable of Sower d'Octavia Butler, où est-ce que la fille, voyons comment elle s'appelle, Lauren, tu sais, justement, tu sais, quand elle fonde Hurt Seeds.
Ouais.
Où est-ce que justement il y a aussi cet apport de la communauté pour cette décision-là, pour l'imposer, tu sais, qu'elle fait pas ça toute seule, tu sais. Oui, elle est comme leader de la patente, là, ce n'est pas uniquement que d'elle-même, tu sais.
Non, c'est ça, il y a des protagonistes à ces histoires-là, mais il y a pas une emphase, mais en même temps le canon va se dévoiler à nous.
Ouais.
On va prendre le prochain 20 minutes, je pense, pour discuter des œuvres, voir comment est-ce que ça se déploie.
Mm-hmm.
Mais tu vois, moi, j'étais allé trouver vraiment, là, par hasard, le premier que j'étais capable de trouver à la BNQ, c'est un truc qui s'appelle Who Fears Death de Ndeki Okorafor.
Oui, je l'ai lu, ça.
C'est...
Ah ouais.
C'est quand j'étais... Oui, j'ai trouvé... Il y a trois moments, jusqu'à présent, je suis rendu aux deux tiers du livre.
Ah ouais.
Il y a des détournement extrêmement intéressant des tropes, mais il y a cette conversation-là avec les gens. C'est les femmes de son village, les sorciers de son village, entre villages, il y a des conversations. C'est toujours... Il y a pas ce satané personnage qui croit... Je pense à toi, Poe Dameron, qui pense qu'il a absolument raison puis qu'on sort absolument personne puis qu'il va le faire, tu sais.
Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il y a ce... Ben, c'est aussi un reflet, c'est le fait que dans la communauté, avec la communauté, on est plus fort. Avec la communauté, on va prendre de meilleures décisions qui est à la fois reflété dans des mouvements politiques afro-américains ou africains, là, mais aussi qui se représente dans ces œuvres-là aussi et qui en fait à ce moment-là un objet qui est totalement... C'est effectivement qui amène une autre forme d'analyse.
T'sais. Ben, c'est ça. Puis c'est aussi, au-delà du fait qu'il décide de concerter, on dirait qu'il n'y a jamais l'option de ne pas le faire.
Exact. Je suis d'accord.
Dans Panther, c'est pas présent non plus.
Non, puis dans ce livre-là non plus, je le pointe.
Oui. En fond, si on le demande, pour les gens qui voudraient aller, il est beau.
C'est un bon livre, je le recommande.
C'est elle qui va faire le spin-off sur les Dora Milaje.
Ah.
Pour Marvel, oui.
Ah ben.
il est choqué.
C'est elle qui va scénariser.
C'est elle qui va les scénariser.
Pour de vrai.
Ok, oui. J'ai vraiment fait celle-là.
Ouais, au corps à
part. Ça a l'air.
Et en fait, elle vient de faire une trilogie qui s'appelle Binti sur un peuple, les Imba. Et dans Black Panther, l'une des femmes qui est au conseil a des cheveux rouges, elle a de la terre rouge, et ouais. c'est pris en fait de ce peuple-là qui existe encore, les Himba, et qui est dans le livre Binti. C'est une trilogie qui avait le dernier tome vient de sortir récemment, oui.
Ok, ouais. Donc
c'est elle qui va s'occuper. Et d'ailleurs, je pense qu'elle a déjà commencé à faire quelque chose avec Ta-Nehisi Coates par rapport à Black Panther et aux spin-offs qui sont autour en comics.
Mais c'est pas la co-scénariste avec Roxanne Gay.
Non, je pense pas. Mais là, par contre, c'est elle qui va vraiment faire pour les Dora Milaje, oui.
Wow, ok, je me serais pas entendu un tel hasard.
Oui.
Vraiment. Ben, ça s'intitule Who Fears Death. Allez lire. Ok, c'est bien.
Et il existe aussi en français si vous voulez.
Effectivement.
Ouais. S'intitule...
Qui a peur de la mort.
Que vous pouvez aller trouver.
À la
BA. À la librairie Racine.
À la librairie Racine. Mais oui, hein, mais.
On est à une demi-heure.
Quand je l'ai rappelé.
Ouais, ça va rester dans la tête des gens.
Oui, c'est ça, effectivement. Merci. La librairie Racine à Montréal-Nord, au bout sur le boulevard Henri Bourassa, allez-y.
Mais, voilà. Mais non, c'est ça. C'est comme déjà un des aspects que je trouve. Bon, ben ça va tout changer, tu sais. Ça va devenir. Ça va laisser place à cette idée-là d'arrêter de penser à l'héros singulier, d'arrêter de penser à l'individualisme. Ça va repenser certaines prises décisionnelles aussi. J'en suis assez ému. Megan, toi?
C'est ce que je voulais dire rapidement. Parce que tu disais... vous disiez que, justement, l'entrée de Black Panther dans le mainstream, c'est comme une nouvelle porte vers tout un pan de la culture que nous, les personnes blanches, pour vrai, on dirait qu'on n'est jamais porté à aller découvrir ça. Puis ça ici, c'est comme, j'ai passé la journée à lire là-dessus. Dans les derniers mois, je lis constamment là-dessus. Jean-Michel est allé à la BNQ chercher un livre. Puis comme, je pense pas que sans Black Panther, ça aurait été un réflexe que j'aurais eu.
Ouais.
Puis comme, je suis vraiment, vraiment... humbled, je sais pas comment dire. Mais comme, je me sens vraiment... petite devant tout ce pan de la culture que je ne connaissais pas et qui est tellement riche, comme je vais juste lire sur... On dirait que c'est toute une histoire parallèle que je redécouvre et qui est tellement plus intéressante que celle que j'ai appris à l'école.
Ben oui.
Pour vrai, si je disais un peu sur justement les mouvements musicaux afro-futuristes et artistiques, c'est sûr que je connais certains de ces artistes-là, mais je connaissais absolument rien de l'afro-surréalisme, qui est tellement fascinant, qui est un peu une espèce de pendant de l'afrofuturisme, mais qui s'adresse au présent, justement, dans toute cette espèce de processus très postmoderne de sampling et de recyclage et de remise à jour des œuvres d'art anciennes à la sauce aujourd'hui. C'est, en tout cas, c'est mon impression.
DJ Spooky, qui a fait un essai assez extraordinaire qui inclut, mais malheureusement, je me rappelle plus c'est quoi le titre de l'essai, Sound Unbound, qui est vraiment comme c'est plutôt une anthologie d'articles où les gens repensent le sampling comme une pratique culturelle. Mais tu sais, t'as vraiment des mathématiciens qui repensent le sampling, puis t'as des gens comme Saul Williams qui parlent de toute l'exploration cosmique qu'on peut faire avec le sampling. Mais oui, dans cette dynamique-là, il y a ça aussi qui est assez impressionnant.
Voilà.
Ah oui?
C'est mon grain de sel.
Ben, c'est drôle parce que en faisant la recherche, je suis tombé l'été dernier. Je m'étais donné comme défi, il y a comme, bon, vous connaissez les listes littéraires, là, qui sont absolument, qui se terminent pas. Puis il y avait une liste sur Lit Reactor qui était comme les 10 œuvres de science-fiction les plus difficiles à lire.
Ouais.
Puis t'avais Infinite Jest dedans, t'avais comme quand même des gros classiques. Puis il y a un truc qui s'appelle Dahlgren de Samuel Delany, qui était considéré comme la toffe des toffes. T'sais, bonne chance avec cette affaire-là. Puis l'été dernier, je l'ai lu au complet, parce que les gens disaient que c'était comme la prochaine étape post-Cronenberg. Si tu veux vraiment te rendre plus loin que Cronenberg, il faut que tu arrives à Dahlgren. Puis à Dahlgren, c'est comme... T'as pété la ballonne de Cronenberg, puis là, il n'y a plus de référent. Tu sais, t'as aucune idée que ça. Et à ma grande surprise dans la recherche, c'est une œuvre très importante dans le canon de l'afrofuturisme. Je ne savais pas que Samuel Delany était un auteur afrofuturiste. Il est très, très, très pâle de ce que j'ai vu sur ses photographies, mais cette œuvre-là, dans le canon de science-fiction, est déjà immense.
Mais en fait, justement, quand Marc Derry a créé le terme afrofuturiste, c'était, il faisait une entrevue de Samuel L. Delany.
Ah oui?
Ouais, de Tricia, j'ai oublié son nom de famille, je vais le retrouver. Et
Octavia Butler, je
m'imagine. Non, justement, c'est ça qui est assez étonnant, c'est que c'était Tricia Ross et c'était Greg Tate. Donc il a pris Tricia Ross, c'est une professeure. Ouais. Greg Tate, c'est un musicien et un auteur, et Samuel Delany qui est un auteur. Donc c'était ça. Et justement, quand il a cité 4 personnes. Il a dit moi, quand je pense à des noirs en 1994 qui font de la science-fiction, je pense à Octavia Butler, bien évidemment, je pense à Samuel Delany, je pense à Steve Barnes et je pense à Charles Soderson. Donc il a cité 4 personnes. Après, je pense que si on sort de la littérature, là, tu as parlé de musique. Mm-hmm. Là, en musique, on peut citer facilement Sun Ra, on peut penser à George Clinton, on peut penser à Jimi Hendrix même s'il a eu une très courte carrière, mais il parlait souvent de voyage dans l'espace.
C'est vrai.
Et d'avoir rencontré les extraterrestres. Maintenant, de nos jours, on peut penser à Janelle Monáe et on peut penser aussi à Outkast, qui, bon, n'existe plus trop, mais qui avait quand même un peu... Il y avait un album qui s'appelait quand même Eight Aliens. Donc, il y avait un petit quelque chose. Donc, en fait, c'est que le terme arrive en 94, mais bien évidemment, les œuvres sont là depuis beaucoup plus longtemps. Et c'est assez intéressant, en fait, de voir que quand le terme se crée, c'est là que les choses se cristallisent. Ouais. Et quand on dit Black to the Future, pour moi, il y a deux aspects. Il y a le fait que un super-héros noir, c'est possible. Un super-héros africain, c'est possible. Mais il y a aussi le fait de, quand on se projette, en fait, ça permet de voir les choses différemment. Il y avait une œuvre d'Octavia Butler que j'ai pas lue, mais juste le pitch j'ai trouvé super intéressant. C'est Fledgling, je pense.
Oui.
Et en fait, c'est de dire, Les vampires ont un problème avec le soleil, ils peuvent pas sortir quand il y a le soleil. S'ils sont noirs, il y a pas de problème. Et dans ce livre-là, c'est juste ça qui est fait. Donc, c'est un vampire de 350 ans qui se retrouve dans le corps d'un enfant de 10 ans.
Exact.
Mais comme elle est noire, elle peut sortir au grand jour parce que son épiderme est assez forte pour résister au rayon du soleil.
Exactement. Donc, dans le fond, elle peut se nourrir, mais sans être en état inaperçu parce qu'elle est noire.
C'est juste ça, en fait, de changer un élément et ça change tout, en fait. Donc moi je pense qu'il y a ce côté-là, parce que on a parlé beaucoup de technologie et de science-fiction, mais c'est aussi il y a le côté mystique. Et par exemple, dans les livres de Nnedi Okorafor, là je pense qu'il y a quand même beaucoup plus la cosmogonie. Donc la cosmogonie, elle est j'imagine qu'elle est africaine, et enfin afro-américaine et nigériane. Donc chez les Nigérians, ce qui se rapproche le plus, c'est la culture vaudou. Donc il y a souvent tout ce qui est dieu de la mort, différentes divinités. Et il y a tout, on peut encore créer de nouveaux mondes. Donc là, il y a un livre qui vient de sortir récemment qui s'appelle Children of Blood and Bone de Tommy Adeyemi. Et là encore, ça se passe au Nigeria et on a vraiment des références culturelles avec des gens qui ont des pouvoirs magiques. Et les gens disent que c'est le prochain Le Seigneur des Anneaux, mais version africaine. Donc ça va être une trilogie. Et c'est de voir, en fait, que, comme tu dis, ça ouvre une autre porte. Donc les gens connaissent la science-fiction dans la culture occidentale, les gens connaissent les mangas et tout ce qui est cosmologie japonaise, quand même, avec le shintoïsme et compagnie. Et là, maintenant, on va pouvoir avoir un peu un nouveau monde. Comme les Nigérians ont une culture assez forte et qui sont anglophones, je pense que c'est par les Nigérians qu'on va surtout passer, les Nigérians et les Sud-Africains. Mais c'est vraiment de ce côté de, vous avez un nouveau panthéon, vous allez voir les choses différemment. Oui, t'as raison sur la communauté, parce que c'est vrai que il y a ce qu'on appelle le conseil, l'arbre à pala pour répondre. Ça, c'est des choses un peu des stéréotypes, mais qui font quand même partie de la culture, et ça permet de voir les choses différemment.
Oui, c'est ça, mais c'est que c'est des contes. Mais pas des contre-exemples, mais je veux dire, c'est une nouvelle dynamique.
Absolument.
En disant ça, je salive à l'idée de, on a découvert, c'est drôle, mais l'entièreté du globe est essentiellement explorée. Il y a plus de nouveaux endroits. Mais là, on est en train de faire sortir des cultures pour continuer à découvrir des trucs.
Mmh. Puis c'est les nouvelles frontières. En fait, ça devient des nouvelles frontières populaires, pas des nouvelles frontières. C'est plutôt des nouvelles frontières géographiques.
C'est ça. T'sais. Mais pour moi, ce que Anne-Fred est en train de dire actuellement, c'est comme la découverte d'un nouveau continent.
Absolument.
T'sais, pour moi, ça devient exactement le même truc. Je suis juste comme, oh, wow. Mmh. Tu sais, il y a tout ça. On va pouvoir voir le monde, parce que bon, à chaque fois qu'il y avait la découverte d'un nouveau continent, géographiquement, on recomprenait le monde au grand Absolument. Complet. Là, la découverte, ou du moins la, comme on disait en début d'émission, la remise en lumière de ce nouvel imaginaire-là nous force à reconsidérer tout le reste.
Parce que, tu sais, de dire la découverte, j'allais revenir là-dessus, parce que, tu sais, de dire la découverte d'un nouveau continent, c'est un peu le même principe que, tu sais, la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb.
Ouais, non,
c'est-à-dire de faire comme, ah oui, parce que les Blancs, maintenant, l'ont découvert, ça devient comme...
C'est legit.
Mais c'est moi, mais moi... Non,
non
c'est
mais je comprends très bien ce que tu veux dire, puis je le prends pas personnel, mais il fallait absolument que je le dise.
Mais t'as absolument...
C'est très bien que tu l'aies dit, t'as raison.
T'as absolument raison, c'est ça, mais c'est comme, ouais, c'est vrai que ça l'a, cette
histoire. Mais la mise en lumière, mais tu t'es repris avec la mise en lumière, puis c'est parfait, que... puis je te connais assez pour savoir que c'est pas ça.
Mais c'est même pas tant la mise en lumière, moi je pense que c'est l'émission s'appelle Pop en stock, moi je pense que c'est vraiment la popularisation de ces œuvres culturelles.
Exact. Ouais.
Parce que finalement, elles existent, je veux dire, quand les gens, les histoires qui prennent les cosmogonies africaines, ben si tu lis des contes africains, elles sont déjà là.
Absolument.
Maintenant, il faut que les gens en Occident lisent des contes africains. Maintenant, là, ce qui se passe, c'est que premièrement, les Noirs qui habitent en Occident, ben, ils aimeraient avoir des choses qui leur ressemblent. Donc, il y a ce premier mouvement-là. Et il y a aussi une ouverture d'esprit de tout le monde et de la majorité blanche en Occident qui se dit, ben, on a découvert les mangas, on a aimé ça, on pourrait découvrir autre chose et aimer ça aussi. Donc, moi, je pense que c'est vraiment le fait que ça, il y a Quand l'Occident braque sa lumière sur quelque chose, on considère que c'est mainstream, mais dans le fond, les gens oublient souvent que l'essentiel de la population mondiale n'est pas en Occident.
Absolument.
C'est
ben
ça.
Oui.
Donc c'est comme tu dis, c'est pas tant mise en lumière, c'est pas tant découverte, mais c'est vraiment popification.
Oui, parce que dans l'étude de la culture populaire, il y a toujours cette composante là que elle doit être disponible à tous. Cette idée-là de culture de masse, c'est qu'elle doit être accessible à tous. Puis bon, l'afrofuturisme n'a pas été accessible à tous. Il y a énormément de lacunes de traduction, il y a eu énormément de lacunes de publication aussi. Mm-hmm. Puis là, bon, ça précède Black Panther. Il y a eu un espèce de... Bon, évidemment, avec des trucs comme la librairie Racine qui se retrouve au... 4689 Henri Bourassa Est.
Ouvert le vendredi, samedi, dimanche.
Exactement. Et depuis le 1er décembre, le vendredi, de 14h à 19h. Tout ça pour dire, c'est rendu plus disponible, c'est rendu plus accessible. On peut rentrer à la BNQ, comme j'ai fait, et prendre un livre au hasard. Chose qui est extraordinaire, parce qu'avant, c'était comme un catalogue de... Avant Black Panther, je connaissais Octavia Butler.
Mm-hmm. Ouais.
Parce que c'était le nom qui était véhiculé, tu sais, elle est la digne représentante, et puis là, ben, à force de mouvement, puis à force de compréhension, ben là, il y a comme, non, il y avait ça. Fait que c'est effectivement pas de la découverte, mais comme la popification, le fait que maintenant, ces objets-là sont disponibles et accessibles.
C'est effectivement un bon mot.
Oui, non, mais c'est parce D'accord. que c'est drôle, parce que tu disais comme, oui, mais on le connaît, je sais que t'as les bonnes intentions, mais ça ne change rien, il faut que je sois capable de faire attention à... Comment est-ce que je traite cet imaginaire-là?
Ouais, je pense que tu vois de quelqu'un d'autre, je ferais comme ben voyons donc, c'est pas parce que t'as des bonnes intentions
c'est
de
ça.
Mais là c'est parce que t'es mon ami.
Oui.
Mais malgré tout, c'est quand même quelque chose de dérangeant.
Oui, exactement. Mais ça devient, il y a comme une double. En fait, c'est une dimension à laquelle j'avais pas du tout réfléchi, mais toute cette émergence-là de l'afrofuturisme permet et oblige ce repositionnement par rapport à la culture.
Ouais.
J'ai été autant inspiré, ben non, j'ai été extrêmement inspiré, je peux pas me mettre en égalité avec personne d'autre, mais comme quand les gens sortaient Black Panther puis disaient comme, oh wow, c'est comme ça que toutes les personnes blanches se sentent quand ils sortent d'un film de super-héros, tu sais. Puis moi, je suis comme, wow, ah wow, c'est...
C'est exactement ça, oui. Je hoche vigoureusement de la tête, là, pour si vous voulez écouter ça en podcast, mais oui, exact, oui.
Mais moi, c'est pas une évidence pour moi. Ça fait que là, tu sais, il y a comme un, y a un humbling, pour reprendre le terme de Megan, qui était très bien placé, de comme, oh wow, je vais pouvoir apprécier quelque chose par procuration. Ouais. Regarder les autres aimer quelque chose, puis faire, oh wow, c'est pas à propos de moi. C'est extraordinaire.
On fait le parallèle avec Wonder Woman. Je veux dire, il paraît qu'il y a des femmes aussi qui ont dit en sortant, waouh, c'est comme ça que les hommes se sentent à chaque fois qu'ils vont voir des films de super-héros. Donc moi, quand je vois Wonder Woman, je me pose pas de question de c'est une femme, alors je peux pas m'identifier. Bon, je pense qu'on s'identifie toujours à la personne qui a le bon rôle dans les films.
Ouais. il y a aussi l'affaire que la plupart du temps, ce sont les hommes blancs qui sont représentés dans des positions justement d'action et de pouvoir. Ouais. Mais nous, puis vous encore plus que moi, c'est sûr que moi je vois des personnes blanches dans des positions de pouvoir, puis je peux m'identifier, puis c'est plus facile, mais comme en même temps on a vécu toute notre vie à devoir s'identifier à des hommes blancs. Donc pour nous c'est évident, mais pour les hommes blancs c'est juste, ah mais non, mais c'est normal.
Oui, c'est normal, mais l'expérience devient autre.
Mais c'est ça, mais c'est comme ça. Tu vis l'expérience que tu n'avais jamais vécue avant, puis ça va juste faire de toi quelqu'un justement de plus enrichi culturellement.
Ben oui, oui, tout le monde, en fait, c'est... J'ose espérer que... Parce que c'est déjà un travail, surtout à travers la culture populaire, c'était déjà un travail qu'on devait entreprendre. Ben moi, personnellement, étant la personne blanche, ce genre là, tu sais, je suis la personne qui va être le plus challengée dans la... D'avoir on tombe dans le politique, comment est-ce que je peux dire ça? Je suis la dernière personne qui va changer, mais je suis la première personne qui devrait. Mm-hmm. Puis,
c'est une belle formule.
Mais je pense que ça peut s'appliquer à tout le monde, hein, pas seulement aux hommes blancs.
C'est exactement ce que j'allais dire.
OK, mais ça me... Il n'y avait rien qui était capable de me... Il n'y avait rien qui m'encourageait à changer autant que voir Black Panther apparaître. Et de dire, OK, je peux... c'est à l'extérieur de moi, là. C'est regardons ça. Ça devient assez... Puis c'est ça, je pense que je suis peut-être un peu en train de me faire une thérapie culturelle. C'est peut-être pour ça que là, je fais livre, disque, c'est tout, parce que j'ai peut-être, au final, ça va être mon dernier jeu statement de l'émission, il faut que ça arrête. Je suis devenu dépendant à cette défamiliarisation-là. C'est le fun de voir autre chose. J'ai l'impression que la science-fiction et le futurisme blanc est arrivé à un impasse où on est dans l'imaginaire de l'apocalypse, on est dans l'imaginaire de la fin. Les scénarios possibles ont tous été explorés en cinéma populaire, puis en récit de science-fiction, et ainsi de suite. Puis on est rendu à seulement être capable de parler de la fin, puis la fin, c'est toujours vraiment les zombies qui prennent toute la place. Et on s'est un peu tanné du récit apocalyptique blanc. Puis là, c'est comme, voyons voir si en allant dans une autre direction culturelle, on est capable de voir un futur positif. On est capable de voir un futur... Tu sais, la science-fiction de super-héros indienne est beaucoup plus optimiste. Tu sais, ils sont incapables de faire un Superman, un Batman Dawn of Justice là-bas, tu sais. Tout est extraordinaire. Puis là, c'est comme, voyons voir si on est capable de... se représenter un avenir qui est positif. On n'est pas capable de le faire avec la culture blanche dominante actuellement. Ça fait que la seule façon de s'imaginer un futur optimiste et positif et constructif, c'est à travers une autre culture.
C'est ailleurs.
C'est ça. Je trouve que c'est quand même extraordinaire de dire que Black Panther et beaucoup de l'imaginaire de l'afrofuturisme a à la fois, comme on parlait en début d'émission, ramener la thèse de Derry en disant, tu sais, si on essaye d'effacer notre passé, est-ce qu'on est capable de se représenter un futur? Ben, en même temps, au-delà que ça représentait le futur des Africains, ça représente presque le futur de l'humanité. Dans qu'est-ce qu'on voudrait le plus? Tu sais, je suis vraiment grateful de ça.
Mm-hmm. Oui.
Mais bon.
Juste les visions de Wakanda que j'avais vues dans la bande-annonce, que j'en avais des frissons, puis c'est tellement des beaux imaginaires qui doivent être reproduits et multipliés et refaits à toutes les sauces, puis je suis contente que ça a enfin sa place dans le mainstream, personnellement.
Oui, oui. Ben, c'est ça, ouais, que ça ait de la place dans le mainstream et que ça puisse avoir sa place dans le mainstream, justement parce que il y a une population, tu sais, je reviens à mon affaire de la critique qui a souvent été faite du, ben, pas qui a souvent été faite, mais qu'on pourrait faire du, ça a été récupéré par un certain capitalisme, tu sais. Puis, c'est que, c'est non seulement c'est mis dans le mainstream par une œuvre bien faite, mais c'est mis dans le mainstream parce que justement, une population noire se l'est appropriée tant d'un point de vue économique en allant le voir que d'un point de vue culturel. Les premières, moi j'étais pas là à la première, là, je peux aller voir le film à la première, mais les images de première de Black Panther étaient extraordinaires parce que toutes les manifestations de ça, tu sais, dans le fond, il y avait la même façon comme dans les films de Star Wars, tu sais, où est-ce que t'avais des gens qui se mettaient en cosplay puis qui allaient voir c'est le ça. Film, tu sais, quand tu parlais du je comprends enfin ce que les blancs ressentent quand ils vont voir des films de super-héros, moi qui suis une grande amatrice de Star Wars, je ressentais encore plus là, oui. la fébrilité de voir ces images là passer de Black Panther, je trouvais ça beau, tu sais, ce côté geek-là qui est justement reproduit. C'est ça, c'est que c'est à la fois d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue complètement culturel, et de l'ancrer dans l'espace public, de faire regarder, nous autres aussi on existe, nous autres aussi on est capable d'avoir une culture populaire, ben oui. geek, telle que vous l'imaginez dans vos têtes. Tu sais.
Et belle.
Exact.
Oui, et belle, là, vraiment oui. comme quelque chose oui. de constructif, de rayonnant, exact. De positif. De oui, oui, absolument. Je suis très d'accord.
Et par rapport à l'Afrique, je pense aussi, parce que pour moi, il y a deux aspects. Il y a le côté les personnes noires, donc en Occident, mais il y a aussi le regard de tout le monde. Et ça, c'est pas seulement l'Occident, parce que si on va voir des Asiatiques, si on va voir des Européens, c'est la même chose. Ouais. Enfin, je dis Européens, ils sont occidentaux, mais c'est vraiment le côté de on a vu une Afrique qui est belle. Et les paysages sont beaux en Afrique, ça tout le monde le sait, parce qu'il y a des y a National Geographic, n'est-ce pas? Ça, c'est petite blague.
Elle est excellente, j'ai adoré ça.
Mais il y a aussi le fait que si vous allez voir les capitales africaines, si vous allez à Johannesburg, si vous allez à Abidjan, si vous allez à Lagos, si vous allez au Zimbabwe voir les capitales, vous allez voir des bâtiments, vous allez voir des constructions, vous allez voir des gratte-ciels. Et les gens, je pense que dans l'imaginaire collectif, hors Afrique, ça n'existe pas. Là, malheureusement, c'est peut-être le seul petit commentaire que je ferai négatif sur Black Panther, c'est que oui, on voit que c'est technologique, mais c'est tellement pas utilisé parce que c'est plus des décors intérieurs ou des beaux paysages qu'on voit pas des constructions, on voit pas des gratte-ciels beaucoup. Mais je trouve que ça permet aux gens de se dire ah mais en fait c'est possible là-bas aussi. Et c'est vrai que les gens pensent que le Wakanda c'est le futur, mais non, le Wakanda c'est aussi le présent. Le Wakanda c'est le vibranium, c'est le coltan du Congo. Les étrangers qu'on veut pas faire rentrer, c'est l'Afrique du Sud, avec aujourd'hui des gens qui étaient en apartheid il y a 20 ans mais qui ne veulent plus recevoir les zimbabwéens d'à côté. Donc il y a vraiment un côté où c'est quand même ancré dans un présent, c'est ancré dans du concret, et ça permet aussi d'avoir des discussions sur des enjeux qui sont actuellement présents en Afrique. Donc il y a ce côté aussi de on est dans une discussion, on parle de futur, on parle de super-héros, mais on parle toujours, quand on parle de super-héros, on parle toujours des enjeux actuels d'une société.
Absolument.
Et là, on parle des enjeux de la société africaine. Donc, je trouvais ça très intéressant aussi.
C'est fantastique. Merci beaucoup. Non, merci beaucoup, Anne-Sophie. C'est vraiment... merci, Rachel. Merci, Megan. Je trouve que... Ouais. Bon, je suis à peu près autant inspiré par cette émission que je l'ai été par le film. Merci beaucoup. Non, mais vous êtes des belles présences. Merci encore aux auditeurs. Allez encourager Racine, que ce soit par s' abonnement sur Facebook ou d'aller suivre leurs activités, et aussi la Fondation Bias, BIAS.
Exactement, Fondation Bias sur Facebook, vous pouvez nous suivre, et puis on fait quelques petites choses. Surtout l'été qui vient, on va faire des projections.
Oh, c'est chouette, ça.
Oui, et ils nous ont relayé un article des 11 musiciens botswanais à regarder, à surveiller cette année. Donc, on va aller regarder une de ces suggestions. On va aller regarder.
On va écouter.
On va aller écouter une de ces suggestions. Amo Ski Mask avec I Got. Bonne semaine, tout le monde. I got 100 haters. I don't mind one more. What are you doing? I done 100 favors. I can't.